En début de cette deuxième heure, c'est l'heure de retrouver Luc Lavoie, analyste politique à Cogeco. Bon lundi, Luc.
Bonjour, ça va?
Ben oui, ça va bien. On est à quoi? Trois jours du dévoilement du nouveau cabinet de François Legault. Tu gravites dans le milieu politique depuis nombre d'années. À 72 heures, là, est-ce que les jeux sont faits?
Probablement pas. Probablement pas, parce que c'est très, très compliqué pour un premier ministre nouvellement élu de former son premier cabinet. Il y a tellement de données dont il doit tenir compte que c'est très difficile. Alors, faut que ça, homme-femme, il y a promis un gouvernement à parité. Mm-hmm. Représentation des régions, les portefeuilles économiques, les portefeuilles plus sociaux. Enfin, il y a toute une gamme de données dont il doit tenir compte. Et à 72 heures, d'après moi, non. D'après moi, ça va se régler la veille.
Et Luc, il y a peut-être une nouvelle donnée aussi qui était par rapport, en fait, le fait que c'est un nouveau gouvernement qui n'a jamais été au pouvoir, c'est les anciens soldats par rapport aux nouveaux, les Éric Kerr, Bonnardel, Nathalie Roy, Jolin Barrette, comment on les récompense, ces loyaux soldats-là?
Ah ben ça varie d'un cas à l'autre. Là, vous prenez un cas comme Bonnardel, c'est sûr qu'il va être nommé. Ok, à quel poste, je sais pas comment il va lui trouver quelque chose, mais il va certainement être nommé. Vous prenez le cas de Jolin Barrette, c'est évident qu'il va être nommé parce qu'il en a fait le porte-parole avec Geneviève Guilbeault entre l'élection et la sermentation. Les deux qui ont parlé au nom de la CAQ sont ces deux-là. C'est indicateur qu'on va les retrouver au cabinet. Nathalie Roy, je sais pas, probablement, parce que j'imagine que en cherchant la parité, il va falloir qu'ils prennent des femmes qui ont un peu de coffre et un peu de statut. Et puis, c'est son cas. Enfin, elle a occupé beaucoup de place à l'Assemblée nationale. Il faut évidemment qu'ils en tiennent compte, parce que un parti nouveau comme ça, s'il faut qu'il laisse tomber ses premiers pionniers, ça va finir par mal aller.
Ouais. Comment ça... Ça fonctionne? Est-ce qu'on commence avec les principaux? La CAQ se définit beaucoup comme étant un parti qui est un parti économique. On va faire plus avec moins. Est-ce qu'on commence avec l'économie ou est-ce qu'on commence avec santé, éducation, les deux principaux ministères d'un gouvernement?
Ben d'abord, il s'est mis une course à obstacles devant lui qui est assez exceptionnelle. C'est la question des signes religieux, là. Alors, au départ, il va falloir qu'il trouve quelqu'un qui va être capable de tenir le gouvernail, puis de prendre la chaleur, puis de prendre les coups. Alors ça va être un ministre clé, certainement, dans sa première année de mandat, parce que ce débat-là se réglera pas en un mois, là. Mm-hmm. Ça va continuer, ça va aller devant les tribunaux, ça va être rejeté, ça va être une saga interminable. J'ai jamais compris pourquoi il s'est lancé là-dedans d'entrée de jeu, mais ça va être un ministre important à déterminer. Ensuite, on va vers les ministres économiques. C'est clair que le ministre des Finances, c'est fondamental. Alors, il y a le choix entre Christian Dubé, M. Girard, Éric Girard, l'ancien trésorier de la Banque nationale.
Oui, tout à fait.
Alors, quel il va choisir? Moi, je dirais qu'il va aller vers Christian Dubé, qui a déjà une certaine expérience parlementaire, une certaine expérience politique et semble avoir la personnalité pour aller avec un ministre des Finances. Un ministre des Finances, pour que ce soit crédible au-dessus de tout soupçon, solide, compétent dans ses propos. M. Girard, je dis pas qu'il n'est pas solide et compétent dans ses propos, on le connaît pas, il n'a pas été testé. Et se faire tester sous le feu des adversaires, c'est une expérience assez traumatisante la première fois que tu vis ça. Alors, moi, je pense qu'il va aller vers Christian Dubé. Il va certainement avoir de la place pour Éric Girard dans d'autres portefeuilles de type économique. D'abord, tu as le Conseil du Trésor, qui est un portefeuille économique extrêmement important. Et tu as tout ce qui concerne le développement économique, le développement régional, qui sont aussi des portefeuilles très importants. Mm-hmm. Et il y a un homme d'affaires du nom de Pierre Fitzgibbon qui va probablement figurer dans sa liste aussi.
Tu as dit une phrase importante, au-dessus de tout soupçon. Évidemment, avant d'être candidat, on a scruté à la loupe les candidats avant qu'ils mettent leur face sur le poteau de téléphone, comme on dit. Mais est-ce qu'on fait une deuxième vérification sur ces possibles ministres-là ou la première était suffisante?
Bon, j'ai fait de la politique à Ottawa. Je connais plus le système fédéral, mais je tiens pour acquis que ça doit être essentiellement la même chose à Québec. C'est-à-dire que oui, ils sont soumis à une deuxième vérification, mais elle est différente. Ce sont des policiers qui vont vérifier tout ce qu'il peut y avoir dans votre dossier, tout ce qu'on dit de vous. Y a-t-il des choses qui traînent dans le décor? Ça doit être dès lors qu'ils ont... Et parfois, avant même de nommer quelqu'un, forcément avant même de nommer quelqu'un, ils vont vérifier son passé, tout ça, alors que la vérification préélectorale, elle est faite par des gens qui n'ont pas les pouvoirs d'un corps policier.
Parmi les gros noms, est-ce qu'il y en a qui pourraient être déçus parce que, bon, Blais, Chassin, Lebel, Lafrenière, Foster, Simard, qui est un prof ici à l'UQO, mais qui est de la première garde avec François Legault, est-ce qu'il y en a qui pourraient être déçus?
Certainement. Certainement. Quand vous avez 73, 74 députés, vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux. Et c'est une des difficultés d'un premier ministre. À l'éducation, tout le monde semble voir Jean-François Roberge. Je ne sais pas. Peut-être que ça va être Simard de l'Outaouais, je ne le sais pas. Sonia Lebel, ça m'apparaît évident qu'il va l'installer ministre de Justice. Maintenant, vous prenez des cas comme François Paradis. Une des rumeurs qui court ce matin, mais je vous prie de me croire, les rumeurs pré-conseil des ministres sont généralement dans l'erreur. Je le sais, je l'ai déjà fait moi-même. Alors, mais néanmoins, ça devient une hypothèse, François Paradis pourrait devenir président de l'Assemblée nationale. Parce que lui, il s'est occupé du dossier des aînés, puis tu as Marguerite Blais qui a fait un retour en politique avec la CAQ, elle qui était une libérale. D'après moi, c'est Marguerite Blais qui va être la ministre des aînés, alors il va falloir trouver quelque chose pour Paradis, qui a été si actif... Et qui a pris tant d'espace pour la CAQ pendant les années qui ont précédé l'élection. Et
il a pris une coupe de balle pour le parti aussi, là.
Il a pris une coupe de balle pour le parti. Puis bon, Éric Kerr, c'est un cas problème à cause de ce qu'il vient de vivre. Cette espèce de problème d'éthique, là. Il avait accepté un prêt personnel de la part du maire de la principale ville de sa circonscription parce qu'il manquait d'argent pour l'achat d'une maison. Bon, le commissaire à l'éthique a traversé ça puis a dit, bon, tout est clair, tout est parfait, il n'y a pas de problème. Néanmoins, ça laisse quelque chose dans l'air. Mais ceci étant dit, Éric Kerr, c'est le ministre le plus important de la... l'élu, le parlementaire le plus important de la région de Québec pour la CAQ depuis longtemps. Alors, ça, tu peux pas faire fi de cela. Il va falloir qu'il prenne une décision dans le cas d'Éric Kerr qui sera pas facile. Et d'ailleurs, son château fort étant toute la région de Québec, où il n'y a qu'un libéral qui a été élu, et c'est Sébastien Proulx dans Jean Talon, et il y a deux extraterrestres qui sont atterris là, qui sont Catherine Dorion et Sol Zanetti. Mais il va falloir qu'il récompense d'une certaine façon, ou qu'il mette en vedette les gens de Québec, parce que ce sont eux qui ont été son fer de lance depuis l'élection partielle. De Louis Hébert où Geneviève Guilbeault est devenue la députée. C'est à partir de ce moment qu'il a pris l'avance dans les sondages. D'ailleurs, parlant de Geneviève Guilbeault, il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ce qu'il fasse d'elle la vice-première ministre.
Oui.
Une bonne communicatrice, intelligente, qui se présente super bien, qui est de toute évidence une femme intelligente. Ça, on peut s'attendre à ce qu'elle ait un poste très important.
Ça va être assez captivant, merci. Autre sujet aujourd'hui, Luc, c'est on est à 1 an et 6 jours de la prochaine élection fédérale. Bon, c'est encore loin, diront certains, mais quelle est la cote de popularité, selon toi, de Justin Trudeau?
Ce que montrent les sondages, c'est qu'il est en baisse un peu partout. Sa popularité se maintient plus élevée au Québec. Maintenant, il va falloir qu'il fasse très, très, très attention. En d'autres mots, il y a besoin du Québec pour être réélu. Il y a un besoin plus vital que jamais du Québec pour être réélu, pour compenser la baisse qu'il vit dans d'autres provinces. Alors, au Québec, il va faire face à un certain nombre de grands défis. D'abord, comment il va, si on veut, compenser les producteurs laitiers et les producteurs de volailles, compte tenu de l'accord de libre-échange qui a été conclu avec le Mexique et les États-Unis. Ça, c'est un dossier, mais c'est rien à côté du dossier identitaire. Quelle position va-t-il prendre? Va-t-il suivre ses instincts? On les connaît, ses instincts étant de rejeter toute forme de nationalisme identitaire? Et si c'est le cas, va-t-il choisir d'être proactif dans la mise au défi ou dans le, la contestation de la loi devant les tribunaux? Ça, ça risque d'avoir des conséquences pour lui. Ceci étant dit, il est encore au Québec le plus populaire. Andrew Scheer, sa particularité, à mon avis, c'est qu'il a pas d'ennemis. À part Maxime Bernier, là, qui vient diviser son vote, là, et ça, ça sert les libéraux. Je suis convaincu que M. Trudeau et ses proches ont pris un peu de champagne le jour où ils ont appris la formation de son parti. Ça va nuire énormément à Scheer dans l'Ouest canadien principalement. Mais Scheer, donc, n'est pas quelqu'un. Personne ne déteste ou ne méprise Andrew Scheer, mais par ailleurs, il semble pas vouloir occuper le terrain beaucoup. Ça accroche pas plus qu'il faut. Et d'un autre côté, ce qui sert bien les libéraux, c'est que Jacques Metzing, c'est une catastrophe. Je veux dire, ça donne strictement rien. Le parti se croupit là où il était jadis, dans les 16-17%, et Singh n'est toujours pas député, puis on voit pas le jour où il va l'être, puis il y a rien de son discours qui accroche l'imaginaire ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Alors, à l'heure actuelle, si on avait de l'argent à parier, ce serait que Trudeau va être élu avec une majorité, mais on a appris des leçons. On a appris qu'un an avant l'élection du 1er octobre au Québec, Philippe Couillard était toujours en tête dans les sondages. Ça s'est mis à aller mal exactement il y a un an, et il en a mangé toute une.
Trudeau, oui, a besoin du Québec pour remporter une majorité, mais historiquement aussi, on a vu que les conservateurs n'ont pas besoin du Québec pour accéder au pouvoir.
Oui. Oui, effectivement. Quand tout va bien pour eux, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire comme score en Ontario. Ça va dépendre en partie du comportement du gouvernement de Doug Ford. Si les gens aiment bien Doug Ford, ça va sans doute aider les conservateurs. Mais je pense que les conservateurs vont beaucoup miser sur le Québec cette année parce que ils ont quelques têtes d'affiche qui sont intéressantes quand même. Je pense à Pierre Paulus ou je pense à Alain Reyes, l'ancien maire de Victoriaville. Mm-hmm. Ils ont un certain nombre de députés qui déjà prennent de l'espace et Gérard Beltel, je l'ai oublié, qui est un député important du Québec. Alors, faut pas non plus minimiser les chances de Scheer, étant donné que les gens voudront pas tous mettre leurs œufs dans le même panier. Ceux qui voudront choisir un autre parti iront pas vers le NPD, la vague orange. C'est fini.
On en parle à
l'imparfait. Le Bloc québécois, ben, c'est devenu une farce. Tout le monde a hâte que ça finisse.
Ouais, c'est clair. Merci, Luc. Bonne semaine.
OK, au revoir. Bye-bye.
Bien, bye-bye. Luc Lavoie, analyste politique pour Cogeco.